Merci d'être avec nous pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité. Nous parlons aujourd'hui du nouveau gouvernement en Centrafrique, une équipe qui fait plus de place aux groupes armés à leur demande. Il faut se souvenir que les chefs d'ex-rebelles avaient boycotté le gouvernement formé début mars, réclamé des postes plus importants. Eh bien voilà, c'est chose faite, mais tout le monde n'est pas convaincu, à commencer par l'opposition et par la société civile. Et vous ? Faites-vous confiance à ce nouveau gouvernement? La présence d'anciens rebelles ne risque-t-elle pas de compromettre les chances de juger un jour les responsables d'exactions? Beaucoup de questions se posent et pour lancer le débat, nous accueillons tout de suite Prince qui nous appelle de Bangui. Bonjour.
Oui, bonjour Anne.
Prince, que pensez-vous de ce nouveau gouvernement?
Ah ben oui, je suis personnellement pas déçu, mais... je pense que le gouvernement répond au contexte dans lequel le pays se trouve actuellement. Vous savez bien que dernièrement, un accord de paix a été signé à Khartoum entre le gouvernement et les groupes armés. Et un gouvernement Grébada 1 avait vu le jour, ça a encore été contesté, et encore un autre gouvernement Grébada 2 qui a vu le jour, et qui cette fois-ci comporte les principaux leaders des groupes armés. Alors, ce que nous attendons, pour nous, les citoyens lambda, nous n'attendons que la paix, que les différents leaders qui ont été représentés dans le gouvernement puissent jouer leur partition, autant pour moi, pour qu'il y ait un véritable retour de paix dans ce pays. Il n'y a que ça qui est important pour nous, pour l'instant.
Alors, je vous lis, Prince, le commentaire que nous a laissé André sur WhatsApp, qui nous dit... La prime à l'impunité empêchera la justice nationale de faire son travail. Donc une inquiétude claire concernant la présence accrue des responsables des groupes armés au sein du gouvernement. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude ?
Oui, je comprends parfaitement l'inquiétude de mon compatriote et la douleur également des victimes. Dit-on, voyez-vous, Anne, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Depuis 2013 jusqu'à présent, les bourreaux, ils sont toujours là.
Est-ce que ça signifie pour autant qu'il faut renoncer à la justice dans une certaine mesure pour rétablir la paix ?
Mais Anne, regardez dans les accords, il n'y a aucun mot de amnistie qui a été prononcé. Donc ça veut dire que l'épée de Damoclès est toujours là suspendue sur la terre. Rien n'est perdu. L'histoire court, on va dire l'histoire court à son terme. Et seule l'histoire, en tout cas, nous prouvera que les leaders seront exemptés ou non par rapport aux différentes exactions qu'ils ont commises. Donc moi je pense qu'aujourd'hui faire partie d'un gouvernement ne les met pas à l'abri des sanctions ou des éventuelles poursuites qui pourraient intervenir, que ce soit dans le pays, que ce soit à travers les institutions internationales. Rien n'est encore perdu. Mais je comprends parfaitement l'inquiétude, l'impatience de mes compatriotes. C'est tout à fait normal, mais pour l'instant il faut faire le pas vers la paix, et faisons-le, retrouvons la paix pour que les Centrafricains qui ont longtemps souffert puissent au moins vivre en paix.
Voilà. Merci beaucoup, Prince, d'avoir été avec nous depuis Bangui pour partager donc votre sentiment, ce premier pas effectué vers la paix. On reste à Bangui, direction le quartier du PK5 pour rejoindre Amadou. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il s'agit d'un premier pas utile vers la paix ?
Oui, c'est vrai que surtout ici au PK5, c'est un premier pas parce que voilà, la population, on constate que la population commence à aspirer à la paix. Il faut savoir que l'accord prévoyait la mise en place d'un gouvernement inclusif. Et chose faite, et voilà, tout le monde est content. Et peut-être ça va permettre une libre circulation dans l'ensemble du pays parce qu'on constate que voilà, Les groupes armés, ils ont tous les postes qui ont été demandés, voilà. Et puis on va voir comment ça va se faire. Mais pour l'instant, c'est déjà une bonne chose.
Vous parliez de la circulation dans l'ensemble du pays. Effectivement, les groupes armés aujourd'hui contrôlent 80% du territoire et notamment une grande partie des ressources. Est-ce que vous pensez qu'ils sont disposés à y renoncer ?
Mais oui, bien sûr. C'est pourquoi il y a eu ce gouvernement inclusif. Donc, c'est à eux maintenant de voir, de se racheter et voilà. Et c'est un pays de droit, c'est un pays de loi. Donc, tout le monde doit accompagner ces lois. Voilà, donc c'est ça. c'est un pays où il y a c'est un chantier énorme. Mais là, présentement, il y a un premier pas et puis voilà, on va voir.
Alors, il y a eu différents accords. Hein. C'est déjà le huitième accord signé depuis 2012. Pourquoi celui-ci aboutirait davantage que les précédents, Amadou?
Mais puisqu'on constate que bon, il y a tous les belligérants sont omniprésents dans ce nouveau gouvernement. C'est ça. C'est ce qu'on croit, nous, ici, au PK5.
La clé, c'est la participation de tous les groupes armés, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. À mon avis, c'est ça.
Merci beaucoup, Amadou, d'avoir été avec nous. On va accueillir à présent un auditeur, une auditrice. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Anne.
Que pensez-vous de ce nouveau gouvernement?
Ce que j'en pense, bah écoutez, je vois ce nouveau gouvernement comme déjà la mise en œuvre de l'accord de Khartoum, ça c'est une chose, et c'est en fait un aveu d'incapacité, un aveu d'impuissance de la part des autorités nationales et des forces internationales qui sont à l'œuvre en Centrafrique depuis maintenant 5 ans et demi.
Mais parce qu'un premier, après la signature de l'accord de Khartoum, donc début février, une première équipe, un gouvernement avait déjà été formé, qui a été boycotté début mars par un certain nombre de groupes armés qui voulaient une place plus grande. Est-ce que finalement ça ne risque pas de se reproduire?
Ah ben le risque est toujours là, je veux dire, on a déjà eu, même dans la période qu'on appelait la transition, on a déjà eu des ministres qui étaient issus des groupes armés, d'ailleurs il y en a un qui revient pour la deuxième fois, donc Monsieur Sayo a déjà eu un poste, a occupé un poste de ministre pendant la transition et retourné après dans sa rébellion pour revenir maintenant en tant que ministre. Le risque est toujours là. Je veux dire, cette stratégie qui consiste à donner au chef un poste, c'est un peu la même que quand on donne une enveloppe au chef. Ça ne dit rien sur le fait qu'il ait le pouvoir de stopper ses troupes ou pas. Quel pouvoir ont-ils réellement, finalement, sur le reste des combattants? Après, il faut voir ce que le processus de DDRR donnera, si tous les éléments armés sont inclus ou pas. Ça va peut-être être décisif pour la mise en œuvre ou la réussite de cet accord.
Beaucoup d'incertitudes, effectivement, et en même temps, il fallait bien agir, c'est ce que nous disent un certain nombre d'auditeurs qui nous laissent des messages sur les réseaux sociaux, essayer de faire quelque chose et commencer à discuter, et de fait, étant donné l'ampleur du territoire qui est contrôlé par les groupes armés, cela ne peut pas se faire sans eux.
Tout à fait, tout à fait. La situation est telle maintenant que finalement on est quasiment dans une impasse. Et le souci, c'est qu'en fait, les autorités n'ont aucun pouvoir factuel. L'armée centrafricaine n'est pas en effectif suffisant pour pouvoir répondre à ces groupes armés. Et les forces internationales, la MINUSCA, non plus. Il n'y a d'une part manifestement ni la capacité ni la volonté d'intervenir dans ce qu'on appellerait un conflit conventionnel, c'est-à-dire faire une guerre et mettre fin aux rébellions, ça n'est même pas pensable, même plus possible finalement.
Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous, d'avoir participé au débat. Un terrible aveu de faiblesse, nous disiez-vous tout à l'heure. C'est aussi ce que pense Tierno, qui nous écrit sur Facebook, qui nous dit « L'État était obligé d'accepter car il est très faible devant ses chefs de groupes armés. » Bonjour Ismaël.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs du RFI.
Vous nous appelez également de Bangui. Alors, le président Touadéra avait-il vraiment le choix?
Oui, ce que le président vient de faire, c'est vraiment un bon choix. Puisque le bourreau, quand on ne le nomme pas au poste de responsabilité, vous voyez, il ne va pas accepter la responsabilité. Donc, à mon avis, ce choix-là est un bon choix pour la stabilité et la paix dans notre pays.
Un bon choix, Ismaël. Je suis désolée, j'aimerais bien vous laisser continuer, mais la ligne n'est vraiment pas très bonne et j'ai peur que nos auditeurs ne puissent pas suivre ce que vous allez nous expliquer. En tout cas, on a entendu l'idée principale, donc un bon choix, un pas vers le retour de la paix en Centrafrique après donc 6 ans de conflit. On va accueillir Benjamin qui nous appelle aussi de la capitale centrafricaine. Bonjour.
Oui, bonjour Madame Anne.
Ce gouvernement, c'est le deuxième déjà depuis la signature des accords de Khartoum au début du mois de février. Est-ce que vous pensez qu'il fallait changer et nommer cette nouvelle équipe?
Oui, moi je pense qu'il fallait nommer cette nouvelle équipe. Mais ce que le gouvernement vient de produire comme copie, c'est un appel d'air. Je pense qu'on est loin de sortir de l'auberge. Parce que maintenant, pour être ministre dans ce pays, il faut prendre les armes. Et le deuxième aspect, on pouvait demander au groupe rebelle de proposer des gens ayant au moins une instruction, ou bien qui ont un niveau d'instruction un peu élevé pour les mettre dans le gouvernement, mais on prend des gens qui ont à peine fait la classe de CM2, comme on les nomme comme ministres dans un gouvernement. Vous voyez, comment est-ce qu'on peut conduire un pays avec ces genres de personnes?
Et une prime à l'impunité, en quelque sorte, comme nous le disait un auditeur
voilà,
sur Facebook.
Et c'est, comme je le dis, c'est un appel d'air. Même nous tous, les Centrafricains, on se dit maintenant, ça ne sert à rien d'envoyer nos enfants à l'école. Il vaut mieux avoir un camp, on les forme au maniement des armes et demi peuvent être ministres. Donc vous voyez comment est-ce qu'on est en train de ramener ce pays à un état, je peux dire, de l'âge de la pierre. Et le deuxième aspect que je voudrais souligner, un pays comme le nôtre, qui vit sous perfusion, même le salaire, c'est avec la contribution des partenaires internationaux qu'on paye les salaires, mais on a 39 ministres de plein exercice. Et si on prend les ministres assimilés, on a eu une centaine, parce qu'il y a des ministres conseillers à la présidence, à la primature, un peu partout, tout le monde est ministre, avec des salaires exorbitants, alors que le peuple est en train de croupir dans une misère inqualifiable, et ça ne dit rien à personne, et tout le monde est là, on fait comme si rien ne s'est passé, et puis voilà. Donc moi, je pense que ce pays, la manière par laquelle les autorités sont en train de conduire ce pays, va pas nous amener à sortir de cette situation, et les Centrafricains, tous les Centrafricains sont en train de comprendre que ça ne sert à rien et rien du tout d'aller à l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour être ministre, pour avoir un poste de responsabilité. Donc voilà, moi je pense que le message envoyé et les conséquences sur les générations futures qui sont très lourdes.
Très lourde. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous, d'avoir partagé votre scepticisme concernant ce nouveau gouvernement. On va voir ce qu'en pensent les autres auditeurs. Théophraste, bonjour.
Bonjour Anne Cotenay.
Est-ce que vous partagez l'avis de Benjamin qui nous disait à l'instant qu'il avait quand même de sérieux doutes sur la volonté des groupes armés à vraiment aller vers la paix et sur le choix du président d'avoir accordé autant d'importance au chef des anciens mouvements rebelles?
Oui, de prime abord, je suis très sceptique à cela parce que, c'est pas des gens sérieux. Et même si on les nomme, je vous assure actuellement, c'est eux qui contrôlent. Qui font la douane, ils prélèvent les impôts, ils font tout dans leur zone de juridiction. Ça là, ils ramènent rien dans le trésor public. Encore sur ça, on les a nommés indûment. Imaginez dans cette grave illégalité que le gouvernement est en train de faire, c'est-à-dire pour nous prouver que l'école n'est rien en Centrafrique. Imaginez-vous un pasteur du rang Kamel et on décide de nommer des gens qui n'ont même pas un background. Pour moi, ça c'est mon ras-le-bol, hein. C'est très, très, très impossible de voir l'émergence à caractère intellect en République centrafricaine. Donc, ici chez nous, ce qui se fait, on procède au paiement de primes à la tuerie en République centrafricaine. Et moi, je trouve ça de très anormal.
Alors, ces groupes, ce sont quand même des mouvements qui connaissent très bien le terrain et qui sont présents dans quasiment l'ensemble du territoire. Et un des points que prévoit l'accord, ce sont notamment la mise en place, ce sont des unités mixtes, des patrouilles auxquelles participeraient à la fois d'anciens combattants de ces groupes armés et des membres de l'armée centrafricaine. Est-ce que vous pensez que ces unités mixtes, ces nouvelles structures vont pouvoir ramener la paix et notamment contribuer au désarmement?
Madame, ici, vous faites état des faits que vous êtes en train d'expliquer. Mais ici, il s'agit du fond, de l'intérieur.
Ismaël, je suis désolée, on ne vous entend plus du tout. On va essayer de vous rappeler pour peut-être poursuivre cette conversation. En attendant, on accueille Roca qui est à Paris. Bonjour.
Oui, bonjour Anne.
On parlait à l'instant du processus de désarmement. Est-ce que vous pensez que ce processus peut se poursuivre? Je rappelle pour nos auditeurs que le ministère du DDR est dirigé à présent par un ancien chef d'une milice anti-Balaka. Est-ce que vous pensez que le processus peut se poursuivre et peut aboutir?
Alors voici ce que moi je pense, hein, et que ceux qui pensent aussi comme moi, plusieurs observateurs pensent que le dernier R qui est rapatriement aujourd'hui est mis de côté juste parce qu'on prend aujourd'hui les mercenaires étrangers, on les nomme comme un chef militaire de ces régions. Nous avons trois régions qui sont sous le commandement d'un Tchadien Al-Khatim, d'un Nigérien qui est aujourd'hui Ali Daras, et de Sidi qui se dit centrafricain, mais certains centrafricains pensent qu'il est camerounais. Alors, est-ce que ces gens qui ont été nommés, qui vont avoir les passeports diplomatiques centrafricains, vont être rapatriés chez eux, pour être jugés? Donc, pour moi, déjà, la notion de justice, d'impunité zéro, est mise de côté, et les étrangers qui devront être rapatriés chez eux pour être jugés par leur justice nationale sont maintenant légalisés sur le territoire centrafricain. Donc, vous voyez un peu que l'avenir du peuple centrafricain semble être vraiment sombre. Le bout du tunnel n'est pas encore vraiment au goût du jour.
Alors vous parlez de justice, mais l'accord qui a été signé au mois de février ne fait à aucun moment mention d'une amnistie. Donc en théorie, tout le monde peut être jugé.
Tout le monde peut être jugé, effectivement. Mais après, maintenant, on se dit, le rôle de la CPS, le rôle du procureur de la République, on ne voit aucun mandat lancé contre ces auteurs de crimes. Les gros poissons sont là. On sait qu'il y a aujourd'hui deux personnes qui ont été arrêtées du côté des anti-Balaka, Ngaïsuna et Yekatom, qui se trouvent aujourd'hui au niveau de la Cour pénale internationale à la Haye. Mais du côté de Silika, dites-moi quel est le gros poisson qui a été arrêté aujourd'hui par la communauté internationale, par la MINUSCA en question?
Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu d'arrestation, mais la Cour pénale spéciale a commencé son travail. On peut imaginer que, effectivement, ce sont des démarches qui prennent du temps. Vous pensez que la justice est à ce point compromise?
Il faut que le garde des Sceaux fasse son travail. Nous devons voir quels sont les mandats qui ont été lancés officiellement. Nous, au jour d'aujourd'hui, je vous parle, je n'en ai aucune notion là-dessus. Et même au niveau de la CPI, j'y vais de temps en temps, je n'en vois pas. Et aujourd'hui, le fait même déjà de nommer les bourreaux qui vont aller se vanter devant les victimes, qui vont être entretenus par les coupables qui sont des victimes, pour moi, je pense que c'est une grosse erreur de la part du gouvernement actuel.
Merci beaucoup, Roca, d'avoir été avec nous. Vous n'êtes pas le seul à partager cette opinion. Dans un message sur WhatsApp, William nous dit « Le gouvernement centrafricain a trahi son peuple. Comment peut-il partager le pouvoir avec des bandits qui tuent sans pitié la population et qui déstabilisent le pays sur tous les plans ?» La question se pose, effectivement. Bonjour, Théophraste.
Bonjour. C'est très regrettable. Déjà, le fait, vous avez souligné, l'autre là, mon prédécesseur, celui qui vient de passer a souligné ici la question d'amnistie. Imaginez-vous déjà la nomination. C'est déjà une amnistie larvée, une amnistie cachée, que d'aucuns n'ont pas souligné. C'est regrettable. Et aujourd'hui, qui est du côté des victimes centrafricaines? Qui est de leur côté? Aujourd'hui, quand on a eux, imaginez-vous, Al-Khatim a posé. De venir à Bangui.
Théophraste, je suis vraiment navrée. On espérait que ça puisse fonctionner cette fois-ci, mais la ligne n'est vraiment pas d'une qualité suffisante pour qu'on puisse poursuivre. Je suis désolée de devoir vous interrompre à deux reprises. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux pour poursuivre le débat. On peut aussi se parler demain dans la libre antenne. Et en attendant, on va accueillir Karl qui nous appelle également de Bangui. Bonjour. Saint-John, Karl n'est pas avec nous. Un dernier auditeur. Bonjour Saint-John. Saint-John, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Je vous reçois parfaitement là.
Bon, alors c'est une bonne nouvelle. En revanche, je suis désolée, il nous reste très très peu de temps. Est-ce que selon vous, ce gouvernement est un frein à la justice en quelques secondes?
C'est un frein à la justice et c'est une prime à l'impunité. Le fait de nommer des rebelles à des postes de responsabilité de cette envergure, c'est une prime à l'impunité.
Une prime à l'impunité. Merci beaucoup. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous laisser vous exprimer plus longuement. En tout cas, c'est gentil d'avoir été avec nous. Désolée pour les complications dues aux lignes téléphoniques.